Salut, moi c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter toute l'histoire.
La Voix des Mamans, le podcast. Entretien.
Bienvenue sur La Voix des Mamans.
Parce que la maternité est une expérience unique et bouleversante. Parce qu'élever un enfant est aussi passionnant qu'épuisant. Parce que la parole est la meilleure des thérapies. Depuis 3 ans, moi, Dorothée Most, j'accompagne en tant que coach au quotidien, mamans et enfants, dans leur parcours, la gestion de leurs angoisses, de leurs joies et de leurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à des mamans comme vous et moi. Et oui, on ne naît pas mère, on le devient. On devient mère un jour et on le reste pour toujours. Des guerrières, des combattantes, des vulnérables, fortes, fragiles. Bref, je vous invite à la rencontre de femmes vraies, au parcours unique, qui à travers nos entretiens vont se raconter et partager leur histoire, pas toujours comme les autres, de leur maternité, bref, l'histoire de leur vie. La Voix des Mamans abordera sans phare ce que l'on cache, ce que l'on ne dit pas toujours et que l'on garde trop souvent au fond de soi. Notre partage, celui que nous allons construire ensemble, sera notre force. Rire, pleurer, crier, respirer, vivre, vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous pour un tsunami d'émotions et de vérité. Ce podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes pour être écouté, réécouté et partagé à tout moment. Alors bonne écoute. Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et cette fois-ci, nous accueillons un papa. Alors, aux oubliettes, les mamans, les femmes, aujourd'hui, on va parler et faire connaissance avec Yoël Banaï, que moi, personnellement, je connais et j'adore de loin, même si je ne le connais pas personnellement. Donc, c'est un humoriste, un comédien et je suis ravie de l'accueillir. Alors, je sais qu'il va détester ça, mais je te le dis quand même et je le dis à tous les auditeurs. Donc, Yoël Banaï, pour moi, c'est un petit Gad Elmaleh, pas forcément parce qu'il va suivre son humour, mais simplement parce qu'il dit nos vérités. Il dit tout haut ce que tous les parents pensent tout bas, puisqu'il parle énormément de la paternité, avec humour, bienveillance et beaucoup, beaucoup d'émotions au final. Bienvenue sur La Voix des Mamans, au papa, à l'humoriste. Bienvenue Yoël, comment vas-tu?
Bonsoir Dorothée. Et bah, écoute, ça va très bien. Je suis très honoré de cette présentation. Ça me fait bizarre, hein. mini Gad Elmaleh, mais vraiment, vraiment mini, quoi.
Moi, je trouve que tu lui ressembles pas forcément dans le type de l'humour, mais dans les vérités et dans l'émotion. Je trouve que tu as cette émotion qui émane de toi, en même temps de toutes ces choses qu'on vit au quotidien et qu'on n'a pas forcément besoin de se dire. Et en fait, en te voyant, on se dit « mais c'est moi, mais c'est moi, mais attends, mais c'est incroyable !» Donc, est-ce que tu peux juste un petit peu te présenter et puis présenter les sujets que tu abordes et sur ton compte Insta et sur scène maintenant. Donc, je vais te présenter, vas-y.
Alors déjà, juste pour en revenir à Gad Elmaleh, je suis très touché parce que c'est vrai qu'en même temps, je pense qu'on est tous de la même génération, hein, enfin ceux qui écoutent, ou même toi, j'ai grandi avec Gad Elmaleh et c'est vrai que c'est le king, quoi. Donc j'ai sûrement été nourri de son humour dès mon plus jeune âge et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai cet humour-là où je fais en sorte que les gens se reconnaissent. C'est un petit peu la patte Gad Elmaleh, du coup.
Exactement.
Moi, Yoël Banaï, je fais des petites vidéos sur Insta où je parle des choses de la vie, notamment la monoparentalité, la paternité, les petites galères qui peuvent arriver parfois dans la vie, ou même ce qui peut t'arriver quand tu vas à la salle de sport et que tu as la flemme d'y aller. Enfin voilà, plein de choses comme ça de la vie. Je fais en parallèle un petit peu de caméra cachée avec un YouTuber qui s'appelle Caméra Castros. Donc on fait des pranks, des caméras cachées, tout ce qui est contenu humoristique. Je suis également de temps à autre chroniqueur dans l'émission de Less in the City, présentée par Leslie Benaroche, qui est journaliste public. C'est une à deux fois par mois, ça dépend de l'humeur de Leslie, de la qualité des invités qu'on peut recevoir. Je suis chroniqueur lors de cette émission. Et depuis le mois de mai, j'ai essayé de réaliser un petit rêve de gosse, un challenge plutôt, c'est de monter sur scène et de faire du stand-up et puis de me tester. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire, que je n'ai pas pu faire Parce que la vie a fait que j'avais d'autres occupations, parce que j'ai mis ça de côté, parce que j'ai pas été jusqu'au bout. Et je me suis dit, bah dis donc, vas-y, hein, t'y rêves depuis longtemps, fais-le.
Oh.
Et aussi grâce à mes enfants, en fait, dans le sens où je me dis, c'est important plus tard, quand j'échangerai avec mes enfants qui vont grandir, de leur montrer que leur père, tu vois, qu'il est réussi ou pas. Et puis en même temps, qu'est-ce que ça veut dire la réussite? Est-ce que la réussite, c'est dire j'ai fait de la scène et je suis connu et je gagne des millions, tu vois, aujourd'hui? C'est pas spécialement ça la réussite. La réussite, c'est aussi dire, voilà, j'avais une envie depuis que j'étais petit, c'était de monter sur scène, j'aime faire rire les gens, j'ai envie de me lancer ce challenge-là, j'ai envie de que ce soit régulier, d'y aller de temps en temps, faire une fois par semaine, deux fois par semaine, un petit peu comme les mecs qui aiment aller au sport, au foot le dimanche et jouer au foot. C'est pas parce que tu vas jouer au foot le dimanche avec tes copains que tu as envie de faire la Ligue des Champions et de devenir footballeur professionnel. C'est juste parce que tu prends du plaisir. Et puis je me suis dit, en fait, bah vas-y, quoi, essaye de le faire. Kiffe, déjà, profite. Et puis ce sera un bon exemple plus tard pour dire à tes enfants, bah tu vois, papa, il a toujours voulu faire ça quand il était petit. Il l'a fait tardivement, mais il l'a quand même fait.
C'est une belle
Et il est heureux.
Et est-ce que tu penses que pour toi, du coup, ta fierté, ce serait que tes enfants te voient simplement épanoui dans ce que tu fais?
Ma fierté, bien évidemment, ça serait que mes enfants me voient épanoui. Après, je suis pas non plus un pas dépressif déjà. Je pense que même quand je suis triste, je le montre pas. Je pense que l'humour, déjà, ça aide un petit peu à cacher tout ça, ou peut-être justement, ça permet d'appuyer sur des choses qui nous touchent. Mais je sais plus c'était quoi la question. Oui, c'était est-ce qu'ils seront
Ouais, c'est ça,
fiers?
c'est ça.
Oui, l'objectif, c'est qu'ils soient fiers de moi.
C'est
Moi,
ça.
déjà, ma fille, elle a 7 ans et demi. Elle participe très régulièrement à mes vidéos ou même aux caméras cachées qu'on fait sur YouTube. Franchement, elle le dit souvent, ah, mon papa, il est drôle, j'aime ce qu'il fait mon papa, ou je sens aussi qu'elle aime bien un petit peu, enfin, tout ce qui est théâtral, tout ce qui est humour. Je sens qu'elle prend un petit peu cette voie-là.
Mais il n'y a pas plus beau. Alors attends, parce que
Et
pour
c'est
les...
un plaisir de voir son enfant, justement. Avant, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Tu sais, quand on dit, mon père, il est boucher, et moi, je suis boucher, tu vois. Moi, ma fille, pour l'instant, elle ne dit pas qu'elle veut être humoriste ou comédienne, mais je vois qu'elle commence à se passionner par ça. Tu vois, elle prend mon téléphone, elle fait des vidéos. Je la vois quand elle échange avec ses copines à l'école. Je vois qu'elle prend un petit peu exemple sur son père. Et ça, je suis super fier. Je suis beaucoup plus fier de ça que de ce qu'elle pensera plus tard. Tu vois, parce que je me dis,
Magnifique. Ouais,
c'est cool parce
vis
qu'elle
le
prend un
moment
truc que
présent.
moi, j'essaye de lui transmettre.
Magnifique. Alors, en fait, juste, il faudrait que, si c'est possible, tu nous fasses une petite présentation rapide de tes enfants, bien sûr, parce qu'on est là pour parler de l'humour, de tous tes projets et surtout aussi de la paternité, voilà, que tu abordes tout le temps dans tes vidéos et qu'on adore. Donc, présente-nous ta petite famille adorée.
Bah écoute, ma fille qui s'appelle Liat, qui a 7 ans et demi, mon fils Dadju, qui a 4 ans, non, il s'appelle pas Dadju, il s'appelle Nirel, c'est une blague que j'aime bien faire. Il s'appelle Nirel, il a 4 ans, 4 ans et demi.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu me disais, pardon, je présente quoi d'autre?
C'est tout. Si tu en as
Et
peut-être
c'est tout,
d'autres
ouais.
enfants dans le cachet, dans les pays où
Non, non, j'ai pas d'autres enfants.
je...
Après, c'est vrai que dès que je parle de mes enfants, je vais être honnête avec toi, Dorothée, ça m'émeut toujours un petit peu
Ben
parce
oui.
que ça me fait tout de suite penser à tous ces merveilleux moments, tu sais, de ma vie que j'avais, bah, avant d'avoir des enfants. Hein? Donc, personne ne peut être insensible à ça quand même. À chaque fois, j'ai ce petit
Moi,
pincement au
j'allais...
cœur où je me dis, elle était tellement belle la vie avant. Non, je plaisante.
Et moi, j'allais dire, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, un papa qui parle comme ça, tu m'as coupé dans mon élan. Bon, donc vous avez un peu compris l'humour de Yoël, donc du coup, on est là pour rire aussi, mais j'aimerais bien essayer d'aller dans l'émotion avec toi. Donc du coup, qu'est-ce que ça représente pour toi, la paternité? Qu'est-ce que ça a changé dans le bon et dans le mauvais sens? Allez, on va faire les deux.
Dans le bon sens, non, dans le mauvais sens, allez, dans le mauvais sens, on va commencer par ça. Ah, déjà, tu as tout le monde qui te dit, ah, c'est génial d'être papa, c'est génial d'être parent. Bon, je sais pas ce qui est génial. Au début, tu te dis ça, tu te dis, qu'est-ce qui est génial? J'ai plus vite couple, je me lève à 5 heures du matin, je suis fatigué, je répète toujours la même chose, je pue la lingette. Tu vois pas ce qu'il y a de génial. Et puis, au fur et à mesure, tu commences à voir ce qu'il y a vraiment de génial, tu vois. Dans le regard de tes enfants, tu commences à sentir la paternité. J'imagine que c'est la même chose pour les mamans, c'est même encore plus fort peut-être pour les mères. Parce que c'est elle qui donne carrément la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de génial? Bah, c'est que tu as vraiment un rythme, tu as vraiment une raison de vivre, tu es obligé d'aller de l'avant et tu peux pas lâcher, quoi. Tu es obligé de montrer l'exemple.
Et est-ce que tu peux nous dire, avant d'être père, comment tu t'imaginais en tant que papa et quel papa tu es du coup aujourd'hui, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta projection?
Ah ouais, mais grave. Déjà, je me souviens quand j'étais sans enfant, marié ou pas marié, hein, quand je voyais des enfants qui étaient, je sais pas, dans les centres commerciaux, qui hurlaient, qui se mettaient par terre, et je voyais les parents qui faisaient rien, et je me disais, mais jamais de la vie, mon fils ou ma fille fera ça. C'est sûr et certain. Mais vraiment, hein. Je me disais, mais c'est pas possible, genre, tu vois. Aujourd'hui, j'ai des enfants, des fois, ils me tapent des petites crises comme ça. Et je peux te dire que je m'en tape complètement. Je me dis, c'est pas grave. Ils me saoulent tellement, et c'est tellement gênant ce qu'ils font, que soit discrètement, je leur remets une petite tétard, tu vois, sur les fesses. Hein. Attention à ne pas frapper ses enfants, mais de temps en temps, ça fait du bien. Soit je laisse et je lui dis, non, mais il n'a pas fait sa sieste, il est fatigué, c'est pas très grave.
Ils sont toujours fatigués.
Non, mais en fait, je réalise que c'est vraiment compliqué d'éduquer des enfants. En fait, quand tu n'en as pas, en gros, tu dis, ah, mais comment on peut faire ça? Comment on peut laisser ça et tout?
Est-ce
Et
que
après,
tu as
quand
eu
tu te dis.
l'innocence de penser qu'ils n'auront jamais de téléphone ni de tablette à disposition aussi?
Est-ce que j'ai quoi, pardon? J'ai pas entendu.
Tu as eu l'innocence de croire qu'ils n'auront jamais de téléphone ou de tablette à disposition à ta...
Ouais, c'est incroyable. En fait, c'est ouf comment tout ce dont tu penses en fait avant et que tu souhaites appliquer pour plus tard, bah en fait, la réalité fait que tu peux pas faire tout ça. Parce que quoi qu'il arrive, je te donne un exemple. Ma fille, elle a 7 ans et demi. Elle veut absolument avoir TikTok. Donc déjà, pour avoir TikTok, il faut avoir un téléphone portable. Donc, bien évidemment, c'est hors de question qu'à 7 ans et demi, elle ait un téléphone portable. Sauf que dans sa classe, elle est en CE1, ma fille.
Bravo,
CE1,
j'en ai
CE1,
fini.
purée. Non, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. Elle est en CE1. Elle a déjà des copines qui ont un téléphone portable, qui lui parlent de TikTok, de elle a vu ci, ça, etc. Et c'est vrai qu'en fait, donc là, je tiens bon, bien évidemment. Mais c'est compliqué en fait de dire à ton enfant, bah non, tout le monde a un téléphone portable, t'en auras pas, ou tout le monde a TikTok, t'auras pas accès toi à TikTok, etc. En fait, tout le monde suit le move. C'est un petit peu comme ça, on est un petit peu des moutons quoi qu'il arrive. Hein,
Comme nous, on allait aux Champs-Élysées à Chagendas quand on avait 11
voilà,
ans. Donc on
exactement.
suivait
Comme
le
cet
mouvement.
été, toutes les meufs, elles avaient les sabots, je sais
Exactement.
plus, Gucci, là. Voilà, bah, tu vois, tout le monde suit le move. Hein, c'est comme ça.
Mais oui, mais donc du coup, c'est la société qui fait ça. Mais c'est compliqué de faire la part des choses entre ce qu'on est, ce que la
Très
société veut
compliqué.
pour moi.
C'est très compliqué. Quand tu
Après,
deviens parent, en fait, tu réalises que c'est vraiment
c'est
compliqué.
ça.
Faut tenir, c'est sûr, mais tu passes après pour un méchant, pour quelqu'un d'injuste, pour quelqu'un de trop psychorigide, tu vois. Donc il y a tout ça en fait à prendre en compte. Donc ça dépend. C'est soit tu es dur dès le départ et puis tu montres que tu es impartial, etc. Soit tu dis, bon, écoute, c'est pas grave, c'est comme ça. Et je pense que nous aussi, on l'a été. Hein. Moi, ma mère, elle voulait pas m'acheter un téléphone portable quand j'étais plus jeune. Bah, finalement, je l'ai eu à 16 ans. 16 ans, aujourd'hui, c'est super tard pour avoir un téléphone portable. Mais à l'époque, c'était super tôt. Pour ma mère, c'était genre pas possible d'avoir un téléphone portable à 16 ans quand. Mais bon, tous mes amis commençaient à avoir un téléphone portable et du coup, elle a cédé.
Elle a craqué. Comme toi, tu vas craquer dans quelques mois. C'est évident. Comme nous
Sûrement.
tous. C'est comme ça.
Sûrement.
On les
Sûrement.
aime et tant mieux, j'ai envie de te dire. Alors, est-ce qu'on peut revenir à cette question qui est pour moi, je pense, selon moi, très, très importante. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'imaginais en tant que papa et comment tu l'es aujourd'hui? De quelle manière?
Ah, putain, c'est compliqué parce qu'en fait, je suis un peu des deux. Je suis ce que j'imaginais
C'est
et je suis le papa que. Comment t'expliquer?
Allez,
Je
cite-moi
pensais être un
trois.
papa en fait vraiment attentionné, doux, qui passe du temps avec ses enfants, etc. La vie fait que c'est vrai que sur les vidéos, tout le monde me dit oh là là, t'es un papa génial, t'es dévoué, t'es impliqué, c'est pas tous les pères de famille qui sont comme ça, etc. C'est vrai. Mais en backstage, je suis aussi un petit peu nerveux avec mes enfants, ce qui est normal parce que c'est difficile, une semaine sur deux, tu satures, que ce soit pour un père seul ou une mère seule, hein, enfin, je veux dire, ou même des parents, hein, tout simplement. C'est difficile et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à me poser avec mes enfants, faire un jeu, par exemple, ne serait-ce que faire ça. J'ai du mal, alors qu'avant je me disais, mais je passerai énormément de temps avec mes enfants pour jouer avec eux, jeux de société, etc. Je n'arrive pas à faire un jeu de société avec eux et à me poser pendant 1 heure et le faire. Je
Oui, mais
n'arrive
tu
pas.
arrives à échanger et à leur apporter autrement par des rires, des guilis, je ne sais pas, des échanges.
Ouais, bien sûr, ou même des activités
Voilà.
autres que des jeux de société, comme par exemple faire des vidéos, etc. Tu vois?
Voilà.
Mais en fait, voilà, je suis moins patient. Je pensais que j'aurais été plus patient en fait avec mes enfants, je constate que je le suis beaucoup moins. Pourquoi? Peut-être parce que c'est compliqué aussi de gérer des enfants toute une semaine, du matin au soir, et de faire ce que deux personnes doivent faire, le faire seul. C'est pas facile non plus. Je pense qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître de toute manière. Et c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu moins patient aussi. Mais je pensais pas que je pensais être un papa un petit peu plus patient. Et voilà, je le suis moins. Je prends un petit peu plus souvent mon téléphone.
Non, mais voilà. Pour être honnête, on est beaucoup plus appâté que nos parents et nos grands-parents par, comme tu dis, les réseaux sociaux, la communication.
Ouais.
C'est évident qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Donc, quoi qu'il arrive,
on passait plus de temps.
C'est ça. Et de l'autre côté, pour notre défense à nous tous, parce que tous les parents, on a quand même une vie beaucoup plus compliquée à tous les niveaux, financièrement, émotionnellement, socialement, que nos parents et nos grands-parents. Avant, on accouchait, on donnait naissance, on s'occupait des enfants et on ne se posait pas de questions. À 25 ans, ils étaient mariés, merci, au revoir. Aujourd'hui, on a des questions plus compliquées niveau religieux, niveau émotionnel, niveau, enfin, à tous les niveaux.
Ouais, t'as raison. En fait, je suis génial. Non, mais en fait, tu vois, par exemple, dans ma semaine père là, que j'ai faite, ben, y a énormément de vérités, il n'y a que des vérités, mais tu vois, l'histoire de le téléphone portable, ma fille me le reprochait souvent en me disant: papa, tu es toujours sur ton téléphone.
Alors, explique un téléphone petit peu pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Donc, tu expliques tout ce que tu fais, et parce que tu as donc la garde partagée, il faut le dire.
Exactement.
Voilà, donc pendant une semaine entière, tu as tes enfants, et une semaine, pas du tout. Donc, du coup, pendant cette semaine-là, explique un petit peu ce que tu as.
J'explique en fait la vie intense d'une semaine. Père, alors c'est un jeu de mots, père, parce que voilà, je suis papa et parce que je les ai chaque semaine père, et un père, et ils vont chez leur mère. Donc c'est un petit jeu de mots. Et j'explique juste la vie sur une semaine intensive d'un père seul avec des enfants. Mais bien évidemment, les mères célibataires se reconnaissent, et même des parents se reconnaissent tout simplement. Hein, des parents qui sont encore ensemble, tout le monde se reconnaît en fait, tout simplement.
C'est évident. Alors, la seule scène dans laquelle j'espère les pères ne vont pas se reconnaître, c'est la scène où ta fille commence à lire et qu'elle voit le nom de tes copines, de tes plans, on les appelle comme on veut, sur le téléphone. Et ça, c'est exceptionnel parce que ma fille a 7 ans et demi aussi et elle commence à lire dans mon portable les petits secrets, voilà, entre copines, hein, je précise. Alors, en fait, je me dis que si les parents, ils voient ça, c'est que voilà, il y a un petit problème dans le couple. Mais
il y a ça, il y a aussi la partie où je suis allongé sur le lit et que mes enfants, ils m'aident à choisir sur Tinder gauche ou droite, tu vois. Non, bien évidemment que c'est un petit peu appuyé, etc. Mais c'est vrai quand même. Si j'ai eu cette idée-là, c'est parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ma fille, elle était en troisième section maternelle, puis ensuite en CP. Donc, tu te dis, bon, ça va, elle ne sait pas lire encore. Tu peux prendre ton téléphone facilement. Et puis après, voilà, CP, CE1, elle commence vraiment à vouloir elle-même s'exercer. Donc, parfois, tu es sur ton téléphone, elle te fait... Je te rejoins. C'est qui le truc? Tu vois, tu dis, oh putain, merde, elle est en train de lire en fait ce que je suis en train de dire, tu vois, donc d'écrire. Donc maintenant, il faut se cacher, tu vois. Donc je trouvais ça drôle de tourner ça comme ça.
Ouais, c'est magique.
Parce qu'ils sont aussi un peu naïfs. Ils lisent, mais ils ne savent pas vraiment ce que tu dis.
Évidemment, ils s'imaginent des choses.
Voilà.
Et c'est mignon, c'est tellement innocent, c'est beau. Et du coup, quand tu ne les as pas la deuxième semaine, bon, évidemment qu'il y a de la liberté, évidemment qu'il y a du vide. Comme tout le monde, tu es humain avant tout, d'être drôle et avant d'être père, tu es un homme, tu es humain. Mais qu'est-ce que ça fait du coup? Comment tu t'organises et qu'est-ce que tu ressens? Raconte-nous un petit peu l'organisation d'un papa qui a la garde partagée.
Bah écoute, déjà, il faut savoir que ça fait très longtemps, mais je n'ai pas le temps de la faire celle-ci, mais je veux absolument faire ma semaine impair.
Ah, voilà.
C'est-à-dire montrer justement... Le contraste entre le papa à modèle, tu sais, la semaine où il a ses enfants, et puis la semaine impair où c'est vraiment un papa à rien à voir. Genre. Ça me fait grave rire. J'ai commencé à l'écrire, mais j'ai pas encore pu la tourner. Mais je le ferai de toute manière. La semaine où je suis sans les enfants, en fait, c'est vrai que les deux premiers jours, tu souffles grave. Déjà, la semaine où j'ai les enfants, je programme toute ma semaine sans les enfants, c'est-à-dire les restaurants, les sorties, les... Tout, tout, tout. Je programme tout. Je veux vraiment avoir une semaine où je peux tout regrouper, réunir à cette semaine-là.
Ça t'arrive pas de passer une semaine tranquille chez toi le soir et de te retrouver toi-même?
Ça m'arrive, mais je profite vraiment. Quand chez les enfants, je profite énormément. J'évite de sortir. Maintenant, quand je sors parce que j'ai mes enfants, c'est vraiment parce que j'ai éventuellement un anniversaire ou parce que j'ai une date pour faire du stand-up.
Mmh.
Et dans ce cas-là, je prends ma nounou et puis je ça me fait du bien aussi de partir sur scène, même si je prends une nounou et que je paye, c'est pas grave, c'est un kiff.
Bien sûr.
Mais j'évite de sortir quand j'ai mes enfants. Donc du coup, c'est vrai que ma semaine sans les enfants est beaucoup plus intense. Les 2 premiers jours, je pense pas trop à mes enfants dans le sens où ils sont toujours dans mon cœur et dans mes pensées, bien évidemment, mais je suis vraiment en mode je souffle, tu vois. Et puis après, c'est vrai qu'au milieu, tu dis, ah, mais il manque un petit peu. Et puis vers la fin, tu dis, oh putain, dans 2 jours, ils reviennent, il faut quand même que je passe la deuxième pour profiter un max. Parce que après, voilà. C'est comme ça que je vis ma semaine, en fait. C'est des petites montagnes russes.
Et c'est souvent le même cheminement. Ça a évolué au fur et à mesure des mois, des...
Ouais, en fait, au tout début, quand je les avais, il fallait absolument que je sorte et que je ne reste pas seul. J'avais du mal à affronter en fait la solitude. Quand je dis solitude, c'est juste le fait d'être chez soi, devant sa télé, etc., et de rien faire, tu vois, et de se dire ah bah je suis séparé, truc, etc. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie, et ben je me suis retrouvé aussi. J'ai appris à me retrouver, à me dire ok, ce soir je ne sors pas, ou même pendant 2 soirs de suite je ne sors pas, je reste à la maison, je me regarde un petit film, je mange, j'écris des trucs, je bosse, etc. J'arrive à me retrouver seul.
Équilibré.
C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu plus compliqué. Et en effet, tu viens de le dire, en fait, le mot qui est très important, c'est que quand je retrouve mes enfants, je retrouve un équilibre au niveau des réveils, au niveau des couchers, au niveau des repas et de l'alimentation. Voilà, c'est vraiment un équilibre, une stabilité quand je suis avec mes enfants.
Et tes enfants, ils se sont adaptés à la situation rapidement? Comment ça s'est passé émotionnellement?
Ouais, ils sont adaptés, franchement, ils sont adaptés parce que bah, on est intelligent, hein. Soit leur mère comme moi, bah, on a fait ça avec intelligence. On n'est pas du tout en guerre, donc tout se passe bien. Et on leur a fait comprendre, non? Je sais pas, ils voient les avantages chez l'un et chez l'autre. On leur parle beaucoup. Non, en fait, je rigole, je dis on leur parle beaucoup, c'est des trucs qu'on dit souvent. En fait, je l'ai dit automatiquement, alors que c'est trop faux, mais c'est tellement faux. Je te jure que je l'ai dit parce que tout le monde dit ça, mais en fait, c'est pas du tout vrai.
Mais si,
Genre,
mais d'une manière ou
sais que
d'une
pendant que je te
autre.
parlais, je me disais, mais en fait, pas du tout. Genre, mais pourquoi tu dis ça? Genre, je la jouais vraiment en mode podcast. Oh
Mais non,
là
mais non, mais tu t'es bon,
Mais je
tu
te
t'es.
jure, non, je leur parle pas de ça. Vraiment, je leur parle pas de ça.
Non, mais tu leur parles de la vie, tu les ouvres à la vie, tu leur ouvres
Non, je m'étais
leur.
emballé sur un truc là, sur un discours.
Mais.
Pas du tout. Je te jure que pas du tout. Je sais pas. Hey, je viens de me donner une petite gifle. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Yoël? C'est pas vrai ce que tu racontes.
Bon, ça prouve que tu es honnête déjà, c'est bien.
Non,
Mais
non, je leur parle pas. En fait, on s'est séparés, on a divorcé. C'est sûr que de temps en temps, il y avait un petit peu de tristesse, surtout auprès de mon aînée, parce qu'elle était beaucoup plus consciente que mon fils, qui
bien
avait
sûr.
2 ans à l'époque. Mais après, ça s'est fait naturellement parce qu'on est dans de bons termes, sa mère et moi, et parce qu'on est dans la même ville aussi, parce qu'il n'y a pas de guéguerre, etc. Mais j'ai pas eu spécialement besoin de parler avec elle en disant, tu sais, tu as 2 chambres et tu as 2 anniversaires et tu vas avoir plus de cadeaux. Papa et maman, ils seront toujours dans ton cœur. On n'a pas eu du tout besoin de faire ça. Voilà, vraiment.
Bon, ouais, donc nature.
Donc
Nature.
ça s'est fait naturellement, voilà.
D'accord. Et tu leur expliques que tu fais quoi comme métier, surtout au petit, du coup, mais, enfin aux deux, hein. Qu'est-ce que papa il fait comme métier, à quoi il aspire et comment ça se passe quand il te demande, t'as fait quoi aujourd'hui au travail?
Alors comme je suis dans la communication par l'objet, souvent
Ouais.
ça se réduit à. Tu m'entends?
Oui, c'est bon.
Il y a eu un petit bruit, ok. Souvent ça se réduit à papa, il vend des stylos. Parce que c'est vraiment le chef de file incontesté des objets publicitaires, le stylo publicitaire, tu vois. Donc en fait, depuis qu'ils sont petits, qu'est-ce qu'il fait papa? Il vend des stylos, tu vois. C'était juste pour la vanne, à chaque fois elle disait ça à leur mère. Donc du coup, ils sont restés sur ça. Et après, c'est vrai que plus on avance. Depuis qu'ils sont avec moi 1 semaine sur 2, plus ils voient que je fais de la scène, que je fais de la radio, que je fais des vidéos sur YouTube, etc. Et je sais pas vraiment ce qu'ils disent. Ils disent juste mon papa, il est drôle. Ils disent pas mon papa, il est comédien ou il est humoriste. Non, non. Elle dit juste mon papa, il est drôle. Elle dit ma maman, elle est belle et mon papa, il est drôle.
Mais du coup, pour eux, ça c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui te reconnaissent ou qui t'abordent dans la rue, et du coup, ils sont fiers. Comment ça se passe? Ils comprennent que tu commences à avoir une notoriété, que les gens ils font appel voilà, à ton humour. Comment ça se passe?
Alors Dorothée, vraiment c'est gentil, Gad Elmaleh, truc et tout. Maintenant notoriété, mais je t'assure que je suis vraiment à un petit niveau. Alors oui, de temps en temps, de temps en temps, on me dit ah, c'est toi qui as fait la vidéo, ou ouais, quand je vais dans les épiceries cachères, quand je suis à l'aéroport ou quand je suis en Israël, dans un centre commercial, etc. C'est plus en effet au sein de la communauté Fudge ou même à la sortie d'école. Mais je crois qu'ils captent pas trop, genre, parce que c'est très futile, c'est très rapide. C'est genre, ah, c'est très sympa ce que tu as fait. Et puis ils partent, tu vois, les gens, ils vont pas s'éterniser. Je suis pas la rockstar non plus.
Non, mais
Enfin, voilà
bon,
quoi.
ça va le devenir très vite, je pense.
C'est gentil.
Et alors,
Mais elle capte pas trop. Par contre, elle, à l'école, on lui dit souvent, j'ai vu tes vidéos. Et
ah.
ça, et là, elle est contente.
Ah,
Elle est
c'est
contente, pardon, parce que c'est une
ça.
fille,
Oui,
donc contente.
accessoirement.
Voilà.
Ok. Et par rapport à l'humour, si on revient sur le côté un peu professionnel, est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours habité? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure en se disant, ok, bon, bah, je fais rire en fait la galerie ou les femmes? Comment ça s'est passé l'évolution pour en arriver là?
En fait, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. C'est vraiment dans mon ADN. Tu peux me dire ça, le nombre de fois où parfois je me suis dit, non, allez, vas-y, ne fais pas le clown, reste sérieux là où tu vas, au moins pendant 48 heures, c'est impossible. Au bout d'une heure, il y a tout qui apparaît. Moi, j'ai fait mon propre travail d'introspection depuis que je suis petit, parce que mes parents sont divorcés. Je suis né en Israël. D'Israël, je suis venu avec ma mère habiter en France à l'âge de 5 ans. La petite histoire. Je parlais pas français à 5 ans, tu sais, tu parles déjà, tu connais quelques mots, tu parles quand même un petit peu. Je parlais pas du tout français, je parlais qu'hébreu. Sauf que les écoles juives à l'époque ne m'avaient pas accepté parce que je ne parlais pas français. C'était les années 90. Et donc, du coup, ma mère m'avait inscrit en école laïque à Sarcelles. C'est la seule école qui m'avait accepté. Et par contre, je ne connaissais pas un mot français. Et donc, du coup, j'ai dû apprendre très rapidement. Mais le seul moyen, en fait, d'attirer l'attention, c'était de faire rire. Ça, j'en suis totalement conscient. Et je crois que, justement, comme j'arrivais à faire rire mes camarades, que ce soit, dès la maternelle, dès la primaire, j'ai compris tout de suite qu'en fait, quand tu faisais rire, tu intéressais les gens, et puis tu avais des gens qui venaient un petit peu plus te parler, qui t'estimaient un petit peu plus dans la cour, à la cantine. J'arrivais plus facilement à me faire des amis grâce à ça. Et depuis, je sais pas, voilà. Il y a eu peut-être Gad Elmaleh hein, derrière, mais
Aussi.
voilà, c'est.
Et est-ce que tu penses que ça t'a aidé à avoir confiance en toi et ça t'est resté sur le fait que tu pouvais plaire avec cet humour, mais aussi tu réalises que tu plais aussi sans que ce soit amicalement ou amoureusement, on s'en fout, hein, je te parle.
Honnêtement,
Non.
je pense pas que ce soit ça permette de dire que tu as confiance en toi parce que tu as de l'humour. Je pense que justement, l'humour, c'est une carapace. Je pense sincèrement, hein. Il y en a qui disent que ceux qui aiment faire rire, ce sont des clowns tristes. Alors, je dirais pas ça, mais c'est sûr que, voilà, tu vois, moi, mon point de départ, c'est ça, c'est attirer des gens autour de moi parce que je ne savais pas communiquer avec eux, je ne pouvais pas communiquer avec eux, et donc la seule manière de les attirer, c'était de les faire rire. Après, on dit souvent que, y a cette belle phrase d'ailleurs qui est de Gad Elmaleh. En tout cas, je l'ai entendu de Gad Elmaleh qui dit, l'humour, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Et
Magnifique.
je trouve qu'elle est très belle, cette phrase. Et elle me résume
Et
assez bien.
est-ce que tu penses qu'avec humour, du coup, on peut justement dépasser les épreuves, je dis bien les épreuves
Ouais.
de la vie de tous les jours, hein. Et même, est-ce que tu penses que l'humour, ça peut répondre à nos questionnements, nos remises en doute? Est-ce que ça nous fait avancer, quoi qu'il, d'une manière ou d'une autre?
C'est compliqué parce que moi je m'estime être un petit peu drôle, tu vois. Mais la question c'est, est-ce que en faisant rire les autres, est-ce que c'est ça qui va me permettre d'avancer? Est-ce que c'est pas plutôt la personne qui souffre qui a besoin de rire? Tu vois ce que je veux dire?
Bien
Je
sûr.
sais pas comment te dire ça. Donc moi honnêtement, autour de moi, mes amis, ils sont plus ou moins drôles, bien évidemment. J'ai des amis avec qui je me tape des grosses barres, etc. Oui, bien évidemment, c'est vrai que quand je n'allais pas bien, je continuais quand même à faire rire. C'était une sorte de thérapie. C'était toujours ma carapace, en fait. Ça résume, c'est un petit peu la phrase que je t'ai donnée il y a quelques minutes sur les essuie-glaces.
C'est ça.
Ça permet d'avancer, l'humour, quoi qu'il arrive. Le fait de faire rire, ça veut dire que les gens sont là, ils sourient, ça veut dire que tu les intéresses, ça veut dire que tu as réussi aussi à faire décrocher un rire auprès des autres. Et je sais pas, moi, ça m'a toujours fait kiffer de réussir à faire rire quelqu'un. Et quand je n'arrive pas à faire rire quelqu'un,
ouais.
ça m'agace énormément et je vais pas lâcher la personne.
Non, mais est-ce qu'il y a des gens, j'imagine, qui ne sont peut-être pas forcément pas admiratifs, mais qui répondent pas forcément à ton humour. On peut pas plaire à tout le monde dans l'humour, tu es d'accord avec moi?
Bah, ça, c'est sûr et certain. Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent se dire, Yoël, il me fait pas rire du tout, ça peut arriver.
Alors du coup, ça veut dire que si tu as une personne en face de toi, tu la fais pas rire, tu vas pas le lâcher tant qu'elle lâche pas un sourire. C'est beau, ça veut dire que c'est un défi pour toi.
C'est un vrai défi. Alors après, c'est rare quand même que je trouve des personnes qui swamchonnent, mais que ce soit la caissière devant moi, que ce soit un collègue.
Les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux traduire en français?
C'est quoi, quel mot que j'ai pas dit en français?
Dimchen, donc ça, on peut dire.
Ah, j'ai dimchen?
Oui, tout à fait.
Pour tous les non-juifs.
Non, pour tous les Français, de manière générale, et les gens.
Mchen, c'est quelqu'un qui fait la tête, qui n'est pas spécialement ouvert, qui n'a pas spécialement envie de s'ouvrir aux autres et d'échanger, de rire, voilà. de rentrer dans ton délire. Et c'est vrai que pour que je sois à la caisse, à Carrefour, que je sois, que je monte dans un taxi, que je rencontre, avec ce soit des collègues, des amis, les parents de mes des copains de mes enfants, etc. J'ai toujours besoin d'avoir cette petite touche humoristique.
Et quand tu fais des vidéos et que tu te regardes, par exemple, quand tu fais la semaine paire, et que tu vois, là, on en parlait il y a quelques minutes, à quel point tu passes du temps sur le téléphone et que ta fille, elle est derrière et qu'en gros, elle demande « Papa, papa, écoute-moi » et que toi, tu es sur le téléphone, comme on fait tous, hein. Attention, hein, c'est pas du tout un jugement. On le fait tous. Mm-hmm. Et est-ce que du coup, ça te permet pas aussi de te dire « Ok, je me vois en train de faire ça. » Le lendemain, tu vas pas te dire « Ok, je vais poser le téléphone, ne serait-ce que 3 minutes de plus ?» que la veille.
Si, ça m'est arrivé, mais après ça s'est vite. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quand elle m'avait permis de prendre conscience de ça, le soir quand je rentrais de l'école, je mettais mon téléphone en mode avion. Mm-hmm. Parce que du coup, j'avais l'impression qu'il était toujours là, mon téléphone, mais que j'avais pas spécialement de messages, etc.
Magnétique.
Ouais, et donc du coup, je l'ai fait. Et le kiff de ça, c'est que du coup, tu te consacres vraiment à tes enfants pendant une heure et demie, etc. Tu les mets au lit. Et le deuxième kiff, c'est que du coup, quand tu enlèves le mode avion, t'es bien occupé.
Exactement.
Bon, après, il y en a, malheureusement, ils retirent le mode avion, ils sont pas quand même pas occupés, tu vois, mais et voilà quoi. Moi, bon, en l'occurrence, j'ai pas mal de trucs à faire après, les messages WhatsApp, les Instagram,
les Tinder, G-Dream et tout ça, là, on est d'accord.
Même pas, je suis sur aucune application de rencontre, je trouve ça naze.
Ah, bravo, ça c'est bon, on est content là.
Je l'ai été, mais j'ai trouvé ça naze très très rapidement.
Et oui. Je suis d'accord. Très superficiel. Enfin, très, oui, très creux. Et je voudrais te demander une question instinctivement comme ça. Qu'est-ce que représente l'humour pour toi, mais pas en tant qu'humoriste, hein, en tant qu'homme?
L'humour? Waouh. Qu'est-ce que représente l'humour en tant qu'homme? L'humour, c'est de la communication avant tout. L'humour, c'est échanger. L'humour, c'est... C'est créer des liens, tisser des liens, c'est ça permet aussi de s'évader, ne serait-ce que 2 secondes. C'est avoir de l'imagination, je sais pas, c'est plein de choses l'humour. Hein.
Ouais.
Je sais pas si ça te convient comme
alors,
réponse, mais.
Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse.
Non, mais est-ce qu'elle te convient au moins, même si elle est bonne ou mauvaise.
Non, elle est jolie, mais je pense que tu peux aller plus loin dans ta réponse.
Tu peux aller plus loin?
Ouais, tu peux. Et tu vas aller plus loin.
Repose-moi ta question, l'humour c'est quoi, mis à part...
Alors, pas en tant que professionnel, mais en tant qu'homme, en tant qu'humain, l'humour ça représente quoi pour toi dans la vie, dans ta vie?
Je sais pas, l'humour c'est toucher des points sensibles en fait, c'est rire en fait des choses qui nous attristent un petit peu ou qui sont peut-être ridicules, c'est montrer du doigt, pointer du doigt en fait des choses qui sont soit injustes, soit bêtes. J'ai pas trop de...
Non, mais...
D'approfondir, hein.
Non, pour moi, je voulais... Non, en fait...
Dis-moi, on peut échanger, hein.
Attends, parce qu'en fait, j'allais plus dans l'émotion, mais c'est vrai que tu abordes des sujets quand même, entre guillemets, assez légers, mais avec émotion. C'est pour ça que je te demandais qu'est-ce que ça représente l'humour pour toi. On a quelqu'un qui ne rentre pas dans le pathos, qui rentre dans des sujets de la vie de tous les jours, plus ou moins du quotidien, ouais, voilà, vraiment, Mais il y a toujours une touche d'émotion, je trouve, dans tes vidéos. Et c'est ça qui est beau, parce que tu rappelles toujours à l'ordre un petit peu l'amour que tu portes à tes enfants, l'amour que tu portes à la vie, tout simplement.
J'aime bien en fait raconter une histoire.
Voilà.
Même dans les petites vidéos d'une minute, etc., j'aime bien qu'il y ait un début, qu'on comprenne en fait l'histoire et qu'il y ait une fin. Et c'est sûr que quand il y a la petite touche émotion, je trouve que c'est toujours plus sympathique de faire « Oh, c'est mignon, tu vois, à la fin. » J'aime bien.
C'est pas obligatoire, je trouve que ça te représente bien. Le meilleur.
Ouais, c'est un petit peu ma patte aussi, c'est un petit peu mon style, ouais. Et puis l'humour, c'est aussi un miroir. Hein.
Voilà, c'est ça. Bravo, voilà. Tu y es là. Vas-y.
Ouais, bah voilà, t'as réussi à creuser hier. Yeah.
Non, mais vas-y. Mais pour le coup, j'attendais vraiment ce genre de réponse parce que je le ressens chez toi fortement.
Bah écoute, voilà.
Donc en fait, c'est comme pour beaucoup, c'est vrai, c'est un peu banal ce que je vais dire, mais c'est une forme de thérapie, l'humour, et puis c'est une manière d'avancer aussi dans ta vie, on est d'accord. Parce que c'est une forme d'introspection, on est d'accord au final.
Bah, c'est de l'introspection, mais c'est aussi de l'observation, l'humour, hein, parce que c'est aussi des choses qui, moi, me touchent et que je remarque de mon point de vue, mais c'est aussi de l'observation où tu dis, putain, un tel, il est comme ça, les gens, ils sont souvent comme ça, etc. Tiens, je vais le noter et je vais en parler, tu vois, je l'ai fait sur d'autres vidéos aussi. Hein.
Complètement. Et c'est quoi les sujets qui te touchent le plus et qui te parlent le plus, tant au niveau humoristique qu'au niveau paternel ou professionnel? Enfin, c'est quoi les sujets dans la vie qui t'inspirent le plus? Voilà, c'est ça que je cherchais.
Mis à part la paternité, les sujets qui m'inspirent le plus... Je sais pas, c'est peut-être un petit peu les sujets.
Un auditeur.
Comment ?
On a un auditeur qui aime ce que tu dis là.
Ah oui ?
Donc la paternité, bien sûr, et quoi d'autre ? Si tu devais.
Un sujet qui touche à l'amour, on dirait Johnny qui. à l'amour. Je sais pas, parce que moi, je suis vraiment dans l'observation, en fait. Quand je rencontre quelqu'un ou quand j'arrive dans un endroit, quand je parle à une personne pour la première fois, mais peu importe, hein, j'arrive tout de suite à déceler en fait la petite faille, le petit truc, le petit, je sais pas comment dire,
le petit point sensible, mais
le petit point sensible, la petite faille, le petit truc qui peut être drôle, tout de suite tu peux utiliser pour pouvoir faire rire justement.
Voilà.
Regarde comment t'es comme ça, tu vois.
C'est ça.
Donc en fait, j'arrive à j'aime bien en fait observer. Dans la société, en fait, tout ce qui nous arrive chaque jour, en fait, mais dont on n'en parle pas, quoi. Un petit peu comme tous les humoristes, on va dire. Mais tu vois, par exemple, quand tu te gares, tu essaies de faire un créneau et que d'un coup, tu as un tocard qui te regarde, qui se met devant toi et qui regarde, en fait, si tu vas réussir à faire ton créneau, tu vois. Mmh. C'est des trucs que je note en me disant, mais voilà. J'ai fait une vidéo sur les essuie-glaces parce que j'arrive pas, je creuse un petit peu les choses. Par exemple, je sais pas si tu l'avais vu, cette vidéo sur les essuie-glaces.
Mais j'ai vu la vidéo enfin, tu vas raconter, mais j'ai vu, ça me rappelle la vidéo des pourquoi. Et en fait, je l'ai vue là, il n'y a pas longtemps. Et en fait, je trouve que tu as quand même, comme tous les humoristes, mais tu as une très grande, pour moi, selon moi, curiosité de la vie. Et tu te poses beaucoup de questions. Et ce qui fait que du coup, tu les transmets avec humour dans tes vidéos. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit.
Oui, on me l'a déjà dit.
Et du coup, je te trouve quand même assez ouvert d'esprit. Tu fais des situations les plus banales, des situations drôles, quoi. Donc, raconte-moi.
Parce qu'on n'y pense pas. Hein. C'est des choses qui nous arrivent tous les jours, tu vois. Par exemple, je sais pas, j'ai relevé aussi que la caissière, tu vois, quand tu es à la caisse, je te donne un petit exemple, hein, tout bête. Mais quand tu es à la caisse, la caissière s'occupe du client qui est avant toi. Mais parfois, tu arrives proche d'elle, et elle te dit bonjour, et on se dit bonjour déjà, alors que c'est pas encore à mon tour. Et elle peut me l'avoir dit il y a 5 secondes, dès qu'elle enlève le petit truc client suivant et qu'elle me regarde, elle me redit automatiquement bonjour, tu vois, genre c'est des trucs, tu vois, je sais pas, il y a plein de petits trucs comme ça où tu dis mais c'est bizarre, elle vient de me le dire il y a 5 secondes, mais là comme c'est à mon tour, elle me le redit automatiquement alors qu'on se l'est dit. C'est des petits trucs comme ça, tu sais, où parfois tu dis, mais après quand tu le mets
en scène,
on se dit mais c'est vrai ça.
C'est vrai. Et est-ce que tu peux nous dire, là, dans les prochains mois, les prochaines semaines, où est-ce qu'on peut venir te voir et quels sont tes projets à court et moyen terme ?
Où est-ce qu'on peut venir me voir ? Alors, je fais des plateaux, donc des petits plateaux de scène ouverte. Sur mon Insta, souvent, je poste quand je joue quelque part. Voilà, déjà. Mais je ne sais pas où je joue parce que ça dépend des disponibilités et des lieux. Donc au fur et à mesure, je communique dessus. Ensuite, je travaille en partenariat aussi avec Jubuzz, où parfois on fait des interviews de personnalités, de célébrités, pardon. Donc, du coup, d'ici quelques semaines, on va très certainement faire, je ne sais pas quand sera posté ton podcast.
Avant.
Avant quoi ?
Avant quelques semaines. Du coup, avant fin octobre, ce sera posté.
Ok. Donc, courant du mois de novembre, avec Jubuzz, il va sûrement avoir, pour l'instant, je ne peux pas donner l'identité de la célébrité pour laquelle on va faire une interview, mais cet été, j'ai interviewé avec Jubuzz Kenji, on a fait aussi Stéphane Lega, là, on va en faire un autre qui va être pas mal, vraiment, je ne peux pas dire qui, pour l'instant, c'est la surprise Jubuzz, et puis ensuite, d'autres vidéos que je prépare, qui vont être très sympathiques avant la fin de l'année. Et à terme, j'aimerais pour 2023, début 2024.
Non, début 2023.
Point. 2023, tu veux absolument. Essayer de faire un petit spectacle de 45 minutes, 1 heure pour parler un petit peu de toutes ces choses-là, mais vraiment sur scène et échanger avec le public. C'est vraiment exactement le vrai challenge que je me suis donné. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la scène.
Magnifique. Et du coup, la scène dont tu rêverais que tu rêverais d'occuper, ce serait quoi ? Laquelle ?
Franchement ?
Ne me dis pas aucune.
Non, je vais te dire, pas aucune, ni l'Olympia, ni le Zénith, je me la pète pas non plus à ce point-là, mais franchement, si j'ai un rêve et que j'arrive à faire un petit spectacle de 45 minutes, 1 heure qui tienne la route et que je vois que ça se passe bien, mon rêve, ça c'est vraiment de pouvoir faire le point virgule. Tu sais, il y a plein d'humoristes qui font moins d'une heure ou une heure. Et le point virgule, ça me fait carrément plus rêver que faire l'Olympia ou des salles comme ça. Hein. C'est pas du tout mon objectif de faire l'Olympia, les trucs. J'en suis pas du tout. J'en suis très loin. Il y a encore beaucoup de travail déjà. Mais rien que ne pouvoir faire le point virgule, ça serait tellement génial. Un spectacle d'une heure au point virgule, c'est vraiment un dream, quoi.
C'est surtout qu'ils sont tous passés par là, les plus grands, et que il y a quand même une belle notoriété niveau humoristique. Enfin,
ouais, c'est vraiment un rêve.
Ok. Eh ben, on te le souhaite vivement, vraiment du fond du cœur. Et puis, tu nous donneras des news sur ton Instagram. Donc,
avec
tu
plaisir.
Peux donner ton Insta pour les gens qui veulent
te suivre. Eh ben, mon Instagram, c'est Yoel Banay, YOELBANAY, tout simplement.
Okay. Et je vais terminer par la question que je pose à toutes les mamans, mais cette fois-ci, on a la chance d'avoir un papa pour la première fois. C'est quoi pour toi, Yoel, être un bon père, un bon papa, un beau papa ?
C'est quoi pour moi être un beau papa ?
Un bon papa dans le sens…
oui, non, j'ai compris. c'est aimer les enfants de ma future femme. Non, c'est quoi être un bon papa ? C'est se soucier… Non, je pense qu'être un bon papa, en fait, c'est donner sans compter à ses enfants, même si c'est difficile, que tu sois en couple ou pas du tout. Parce que quoi qu'il arrive, je pense que ce que tu donnes à tes enfants, même si c'est difficile, parce qu'ils sont en bas âge ou parce qu'ils sont en crise d'adolescence, etc., je suis sûr et certain qu'ils te le rendent à un moment donné. Et ça, c'est super important de penser aussi à l'après.
C'est un investissement, quoi, en fait, c'est ça.
C'est un investissement pour moi et c'est un des plus beaux investissements. Mais voilà, pour moi, c'est… mon rêve, c'est que vraiment mes enfants me rendent ce que j'essaye et je fais le maximum pour leur donner de tout mon cœur, tu vois. Mais c'est ça, je pense que c'est ça être un bon papa. C'est donner, même si c'est difficile, parce que quoi qu'il arrive, tes enfants, ils te le rendent à un moment donné.
Magnifique. Eh ben, j'espère que tes enfants, ils auront la chance d'écouter ce podcast dans quelques mois, quelques années.
Bah, avec plaisir.
Et puis, la seule chose que je peux te souhaiter, c'est de continuer à être aussi nature et de continuer à être dans l'émotion en même temps que l'humour, parce que c'est rare. Et voilà, très, très beau chemin pour toi. Je te souhaite plein de…
Merci, Dorothée, c'est gentil. Merci de m'avoir proposé ce podcast. Franchement, c'est un plaisir. J'avais un petit peu hésité parce que comme ça s'appelle La Voix des Mamans et qu'il y a que des mamans, je me suis dit bon, ouvre-toi un petit peu. Et puis, je suis super content d'être le premier papa et j'espère que tu en recevras d'autres. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai des petits messages quand même de pères aussi qui vivent la même chose que moi, ou qui croise parfois. Et c'est vrai que j'ai pensé à eux aussi. Je me suis dit, c'est cool aussi de pouvoir un petit peu témoigner et d'échanger comme ça posément avec toi. D'autant plus que tu fais du bon travail d'après ce que j'ai écouté sur les autres podcasts. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté, parce que je me suis dit, bah, finalement, c'était cool. Et qu'il y en a plein qui se reconnaîtront, que ce soit des papas ou des mamans.
Exactement. Et d'ailleurs, prochaine mission, on va essayer de faire un espèce de riff en collab ou une vidéo, je te jure, où on va faire la vision des mères et la vision des pères.
Avec plaisir.
On va faire. Vraiment, j'ai
avec plaisir.
Eh ben, écoute, parler et on vous tient tous au courant. En tous les cas, prends soin de toi.
Avec grand plaisir. C'est pas les idées qui manquent.
Exactement. Bon, bah, je t'embrasse. À très bientôt.
Je t'embrasse. Merci beaucoup. Bon courage. À bientôt.